Donc, ce qu'on va développer maintenant, c'est la raison pour laquelle c'est une question que j'entends très souvent ça dans les cours. C'est a priori très souvent quand on étudie la halakha, et encore plus quand on étudie la Gemara. Des fois, on a l'impression qu'on traite de cas qui sont purement théoriques et des cas qui n'arriveront jamais. C'est une question que j'entends très très souvent ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent, qui disent, mais pourquoi on étudie ça? D'accord, c'est vraiment une des questions que j'entends le plus souvent, c'est cette question.
On a compris,
pour
comprendre la logique.
Ah non, mais non, pour comprendre la logique, autant prendre des cas pratiques, des cas réels, des cas concrets. Pourquoi aller chercher des cas? Alors on va expliquer, ça va être le thème du cours d'aujourd'hui. Surtout, dans le thème du cours d'aujourd'hui, il va nous amener plusieurs exemples de la Gemara, dans lesquels on voit que dans la Gemara elle-même, elle va traiter des cas qui sont complètement hypothétiques, et on va donner des exemples. Des cas qu'on sait très bien qui n'arriveront jamais, qui ne pourront jamais arriver. Et donc la question qu'on va se poser, c'est comment ça se fait qu'on traite de ces cas? D'accord? À quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait, c'est comme si qu'on était dans une école. Tu entends? On fait une petite pause le temps de servir. On a dit qu'une des questions qu'on entend très souvent quand on fait des cours de halakha ou quand on étudie la Gemara, même quand on étudie le Chumash, c'est que très souvent on parle de cas qui vont jamais arriver. Et qui sont peut-être jamais arrivés. D'accord? C'est des cas qui sont finis, qui n'existent plus. Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi on étudie tout ça? Alors qu'est-ce qu'a répondu Serge comme réponse? Une réponse qu'on va dire, bon, qui est un peu pour nous consoler. Il dit, oui, bon, c'est pas grave, pour aiguiser le cerveau. Oui, c'est comme, ça veut dire, c'est comme quoi? C'est, imaginons par exemple, on est dans une école d'avocats, et que, dans cette école d'avocats, ils vont utiliser des cas théoriques, on va leur demander de solutionner ces cas, pour aiguiser leur cerveau. Mais on n'est pas dans une école d'avocats ici. Torah, c'est Milashon Hora'a. Torah en hébreu, ça veut dire le mot Torah. Ça veut dire quoi? L'étymologie du mot Torah veut dire enseignement. Ça veut dire on n'est pas là pour apprendre des cas théoriques, on est là pour apprendre des cas pratiques. Alors il faut faire du ménage de temps en temps. Quand tu as des cas qui sont plus d'actualité ou bien quand tu as des cas qui ne sont jamais arrivés, surtout on amènera des exemples aujourd'hui des cas qu'on sait qui ne sont jamais arrivés et que techniquement ne peuvent jamais arriver. Alors dans ce cas-là, tu perds ton temps. À quoi ça sert? D'accord? Ça va?
Je suis ça.
Alors, ben, oui, il y a des cas qu'on va expliquer ce soir.
Attends,
on a du renfort.
T'inquiète pas,
on a ce qu'il faut. Ce qu'il faut, on change de salle. Voilà. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est... Bonsoir.
Bonsoir.
Non, prenez, installez-vous.
Laissez ça installer déjà.
Essayez de conduire.
Attendez, prenez des chaises. Mais là, il y a la place encore. Donc, mettez des chaises en plastique ou voilà. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est comment expliquer qu'il y a différents cas qu'on va développer maintenant dans ce cours de Tania, des cas de la Gemara, dans lesquels on voit que c'est des cas qui ne vont jamais arriver et qui ne peuvent jamais arriver, et pourtant, on continue à les étudier. Je vais vous dire plus que ça. Regardez. Par exemple, quand on étudie la Gemara, toute personne qui a étudié la Gemara a dû être confrontée à la même question. On va développer tout un développement. On va dire, voilà, Ravintel a dit comme ça. Ravintel a dit comme ça. Un a dit blanc, l'autre a dit noir. Après, la Gemara va poser des questions. Question sur Ravintel. Pourquoi Ravintel a dit blanc? Ça aurait dû être noir. Et comme ça peut aller comme ça pendant 2, 3, 4 pages, 5 pages. Après, à la fin, mal de tête, comme dit David, exactement. Il faut suivre. Et après, à la fin, au début, on perd les pédales. Qu'est-ce qui va se passer au début? Donc au début, on perd les pédales. Et après, à la fin, qu'est-ce que va dire la Gemara? La Gemara va dire, bon, ben écoute, puisqu'on a tellement de questions sur la vie numéro 1, donc la vie numéro 1, on le repousse. Donc on oublie. D'accord? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des fois un sentiment de frustration. Tu dis quoi? J'ai passé 5 pages maintenant.
5 pages et j'ai pas la réponse.
C'est pas que j'ai pas la réponse, c'est que toi qui connaissais déjà qu'à la fin, la conclusion, elle me disait qu'en vérité, c'était une mauvaise version, qu'on a mal reçu, ou bien certainement c'était un truc raté. D'accord? Pourquoi t'as laissé ça dans la Gemara alors? Pour les prochaines, par pitié pour les prochaines générations, efface. Ben, fais du ménage et dis voilà, la halakha sera comme ça et tout le reste, tout ce qui n'était pas bon, on efface. On voit que non, on a toujours gardé. C'est-à-dire que tout le développement de la halakha, on l'a gardé. Et pas seulement ça, comme on a dit, même des cas qui ne vont jamais arriver. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un sens derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on étudie tous ces cas et qu'on étudie dans une multitude de détails, même des détails qui ne nous concerneront jamais à nous? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu?
Oui, la Gemara, c'est des commentaires.
Ouais, oui, mais la Gemara, c'est le développement de la Torah orale telle qu'elle nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est les discussions des Chachamim qui essayent de comprendre ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Mais ta question est bonne. Ta question est bonne, c'est que, une fois finalement qu'on a repoussé un avis, alors ça sert à rien de le ramener. Ça sert à rien, c'est n'importe quoi. C'est comme si, imaginez-vous, quelqu'un qui veut se lancer dans un business. Il a 5 pistes. Non, ça sert à rien, je vais expliquer pourquoi.
Parce qu'en réalité, ça t'a dit que ça sert à rien d'aller sur ce sens, parce que c'est déjà le mauvais.
Ah oui, merci. Alors, pour être sûr de ne pas aller chercher les autres, tu montes les autres.
Non, mais attends, l'homme, il est comme ça.
Attends, je vais donner un exemple du business. Imagine-toi maintenant que pour arriver à un résultat spécifique, tu as 5 pistes. Et tu as une personne qui a essayé les 5 pistes. Ouais. Et qui te dit, j'ai essayé les 5 pistes, ne prends pas les 4 premières, prends la 5e. Moi, je dis non. Je vais les essayer les 5, je vais me casser la figure, et après, je vais comprendre que c'est la 5e. Pourquoi? S'il y a quelqu'un qui est déjà passé par derrière et qui t'a déjà dit que les pistes à la fin c'est fermé, à la fin tu arriveras à la fin, ça sera une la route sera barrée, tu feras faire demi-tour.
Alors
oui, mais ça fait 2000 ans qu'on le fait.
Ça fait déjà.
Ah, mais c'est une manière de retenir
un peu plus quand même.
D'abord, on a 2000 ans.
Et on
n'a pas encore fini.
Mais c'est une manière de retenir la chose, d'avoir une réflexion, parce que si tu apprends quelque chose comme ça sans comprendre avant ce qui se passe.
Sans comprendre quoi?
Ben je sais pas, le début.
Mais on va expliquer maintenant, tu vas voir, on va donner des exemples concrets. De cas dans lesquels on va développer des cas dans la Gemara, des cas qui vont jamais arriver, des cas qui ne nous concernent pas. Donc ça, c'est la question de Yadmour HaZaken qui dit, mais finalement, à quoi ça sert d'avoir gardé tous ces cas dans la Torah? Ça, on le retrouve partout, dans la Halakha, dans le Chumash, etc. Partout, des cas qui sont plus d'actualité. Alors à quoi ça sert d'avoir gardé ces cas? Pourquoi on continue à étudier ces cas? Ça, c'est la question qu'il va poser ici, on va essayer d'expliquer. Donc, dans les mots. Ou les Havin, pour comprendre. Je suis à la page 318, en haut de la page. Il reste encore les Tania pour ceux qui n'en ont pas. Tania, ok, allez, va au prochain. Bon, tu vois, David, il nous reste deux Tania, c'est pas normal.
Sinon, on en rajoute d'autres.
Il faut rajouter encore, non, il faut rajouter encore deux personnes au cours. Alors.
318.
Ou les Havin, Prat et Alachot de l'Oshkiché. Pour comprendre les détails des Alachot de l'Oshkiché qui ne sont pas courantes. Klal, du tout. Comme ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que des fois, on va étudier des Alachot qui ne sont pas du tout courantes. Et pas seulement ça. V'efchar, il est possible, chez lo ayu meolam imtiyut. Et qu'il y a même des cas, qu'on voit dans la Gemara, que c'est possible, c'est fort possible qu'ils ne sont jamais arrivés. Voilà, ça au moins on est fixé. Des cas qui sont jamais arrivés. Des cas purement hypothétiques, théoriques. Mikol sheken, chez lo yotit lavo. Et que c'est des cas qui ne sont jamais arrivés, et qu'à plus forte raison qu'ils n'arriveront jamais. Par exemple. Kegon, par exemple. Praté, dîner pigoul ou kaya gavna. Vous savez, dans le traité Zvachim, qui parle des sacrifices, il y a une grande partie de ce traité, qui est déjà un traité très long de Gemara, qui est dédié au halakha de Pigoul. C'est quoi Pigoul? Pigoul, c'est si un Kohen a fait un sacrifice en pensant à un autre sacrifice. Par exemple. Vous savez que dans les sacrifices, on a plusieurs catégories. Il y a un sacrifice expiatoire. Il y a un sacrifice, c'est l'Holocauste. Il y a un sacrifice, c'est pour remercier Kadosh Baruch Hu. Même si les animaux peuvent être les mêmes, c'est à chaque fois une vache ou un animal cachère, un animal pur. Mais le but, la fonction de l'animal va être à chaque fois différente. Maintenant, quand moi j'amène l'animal au Kohen, je dis voilà, j'amène cet animal-là pour expiatoire, par exemple, pour m'excuser auprès d'Akadosh Baruch Hu pour la faute que j'ai faite. Si maintenant moi j'ai amené ce corban au Kohen, le Kohen il est parti faire quelques mètres pour le préparer, et il a oublié pourquoi il l'a offert. Il a dit, il s'est embrouillé, parce que des fois avec l'affluence, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, il s'est entraîné 5 ans pour ça, pour pas oublier, pour pas se tromper pour pas s'en mêler les pinceaux. Alors, bon, ça c'est un cas qui est relativement facile. Ce cas-là, on peut comprendre que ça peut arriver. On peut comprendre que ça peut arriver un cas que je vais voir Monsieur Cohen. Je lui dis voilà, est-ce que tu peux prendre ce sacrifice? C'est mon korban tratat. Voilà, on a un Cohen ici. Le Cohen il prend le sacrifice et bon, voilà, il pense autre chose. Il se trompe, il fait le korban, il fait la shrita. Il dit ah mince, j'ai pas pensé à ton korban, j'ai oublié. Qu'est-ce que c'était déjà? C'était un holocauste. Mais non, c'est un expiatoire. Ah mais il faut tout recommencer. Ouais, mais attends, c'est une vache, là. Combien ça vaut une vache? Ça vaut cher? Qui va payer la vache?
Pas le
Kohen. Hein? Il a une assurance? Il y a une assurance des Kohanim? Qui va payer la vache? Ça, on va dire, hein. Quand, Aksa, voilà. Ça, on va dire, c'est des cas qui peuvent peut-être arriver. Quand on étudie la Gemara là-bas, c'est un cas.
C'est ça au temple, ça arrivait tous les jours.
Non, pas du tout. Il s'était entraîné pour que ça n'arrive pas. Ça n'arrivait pratiquement jamais. Parce que le Kohanim était entraîné, c'est écrit que Kadosh Baruch Hu, il a donné une qualité au Kohanim, que les Kohanim sont des gens empressés. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très vifs, très rapides. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a donné ces qualités? Parce qu'ils ont besoin de cette qualité dans le service. Il faut être très rapide, il ne faut pas perdre le nord. Tout de suite, tac, 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 il faut tout de suite comprendre au quart de tour. Par exemple, quand il y avait la veille de Pessah, la veille de Pessah, en l'espace de 4-5 heures, il devait sacrifier des dizaines de milliers, dans certains cas, de sacrifices.
Et alors, ils ne s'embrouillaient pas ?
Pas du tout. Non. Ça allait, ils étaient entraînés pour ça. Ils étaient entraînés pour ça, pour aller très très vite. Ils étaient entraînés pour ça. Donc, concrètement, les halakhot de Pigoul, bon, ce cas-là, c'est un cas qui peut arriver. C'est un cas qui peut arriver qu'on a échangé un sacrifice contre un autre. Mais quand on étudie maintenant la Gemara, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la Gemara développe plein de cas, des cas bizarres. Et s'il a échangé tel sacrifice avec tel sacrifice, et s'il a échangé tel sacrifice alors qu'il pensait à tel sacrifice, et des cas compliqués, des cas qui ne sont jamais arrivés, et qui, dit ici la Gemara Zaken, des cas qui n'arriveront jamais. Qui n'arriveront jamais, parce que quand Mashiach arrivera, ça arrivera encore moins. Parce que pourquoi le Cohen il a oublié quand il était à Jérusalem ? Parce que le Cohen, à l'époque où on était encore, le Mashiach n'était pas là, le Cohen, peut-être il était chez lui à la maison, et il y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose, et que donc du coup il pensait à autre chose. Mais quand Mashiach va venir, il n'y a rien qui nous prendra à la tête. Donc c'est clair que tous ces petits cas qui auraient pu arriver, mais que techniquement ne sont jamais arrivés, c'est clair qu'ils n'arriveront pas. Alors moi quand j'étudie cette Gemara Svachim, c'est une Maseret qui a, je crois, de mémoire, pratiquement 100 pages. 100 pages. D'accord ? C'est énorme. Quelles 100 pages ? 100 feuilles, je dis, pas, c'est d'abîme, 100 feuilles, ça veut dire 200 pages. Et quand tu vas, tu dis, mais attends, tu dis, mais pourquoi j'utilise ces cas ? Eh ben, ta Mikdash n'est plus là, quand ma chère reviendra, les Kohanim iront plus les têtes ailleurs, c'est des cas bizarres qui n'arriveront jamais. Donc, tu as l'impression que tu perds ton temps. Tu dis, mais pourquoi je fais ça ? Alors après, c'est pas fini. Après, tu vas voir le commentaire de Tosfot et de Rashi, qui vont essayer de comprendre qu'est-ce que la Gemara voulait dire. Allez, vas-y. Mais attends, le cas, il n'est jamais arrivé, il va jamais arriver. Encore tu te casses la tête pour comprendre. Qu'est-ce que la Gemara voulait dire? Après, tu auras Machloket, Rashi Tosfot, pour comprendre qu'est-ce que la Gemara voulait dire. Après, tu auras les décisionnaires par derrière qui vont comprendre qu'est-ce que Rashi voulait dire, qu'est-ce que ça voulait dire. Maintenant, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour un cas, tout ça pour un cas.
Rashi et Tosfot sont intéressés, c'est qu'il y a vraiment une raison.
Bien sûr qu'il y a une raison. Bien sûr. C'est ça la question. C'est ça la question que nous, le commun des mortels, on a du mal à comprendre. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Parce qu'a priori.
Une certaine logique dans la vie.
Celui qui prend le sujet depuis le début, il dit, mais attends, vous avez démarré d'un sujet qui va jamais arriver. Et tac, 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 tac. D'accord? C'est comme, j'ai reçu par WhatsApp une photo. Quelqu'un m'a montré, il m'a dit, vous savez, pour Halloween, qu'est-ce qu'ils prennent les goyim pour Halloween? Ils prennent
une
citrouille. Et aussi une photo, il te montre une photo avec un rabbin avec des longues piottes, avec une citrouille, il dit, si Halloween était juif, voilà comment ça serait passé. Tu montes un rabbin avec les lunettes comme ça, en train de regarder comme un hétrog. Je montre un rabbin quelque chose. Mais bon, c'est mignon.
Des yeux comme ça.
Ah, mais Clément, t'avais, tu sais, les lunettes comme, la lunette levée comme ça, avec la loupe comme ça, la citrouille.
Ah ouais, dans le détail.
Alors, la question qu'on se pose ici, mais c'est une question sérieuse, c'est une question qui dérange tout le monde qui commence à étudier la Gemara. C'est à quoi ça sert ? Est-ce qu'on perd pas notre temps quelque part ?
Mon fils m'a posé la question.
Iné. Il explique ici. Iné. Modat zot, on doit savoir. Shekol isur sheba olam, que toute interdiction qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire chaque chose qui est interdite, yeshlo shoresh umekochayim biklipot. Il dit, c'est très simple. Tu sais pourquoi on doit étudier chaque halakha, même des halakhot qui ne me concernent pas ? Parce que chaque halakha a une source dans les forces du mal. Ça veut dire quoi ? Le fait même que l'halakha existe, ça veut dire qu'il y a une force du mal correspondante qui correspond à cette avéra. Si on te l'a interdit, ça veut dire que tu peux le faire. Même si concrètement personne ne l'a fait, ça veut dire que tu peux le faire. Donc il y a une énergie négative qui correspond à ça. Et ce qu'il va expliquer ici, c'est que chaque fois que tu étudies un cas positif, tu es en train de récupérer une énergie positive. Chaque fois que tu étudies un cas négatif, tu es en train de te battre contre une énergie négative. Tu es en train de repousser une énergie négative du monde. Alors ça peut paraître un peu abstrait ce que je suis en train de dire. Je suis conscient. C'est pour ça qu'on va autant le développer. Mais là, il va nous donner une dimension complètement nouvelle. Nous, on croyait que quand on étudiait la Gemara, quand on étudiait la Halakha, c'était juste pour connaître la loi. Là, effectivement, si c'était que pour connaître la loi, on aurait pu faire un recueil qui aurait tenu sur 50 pages. D'accord ? Un recueil juridique dans lequel, voilà, bon, c'est un texte de loi après, on va rajouter un mot par-ci, un mot par-là, etc. On fait un texte qui est verrouillé, et ça y est, voilà le texte. Celui qui veut faire la Halakha, il a ce texte de 50 pages. Mais c'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce que quand on étudie la Halakha, on n'est pas là simplement à savoir quelle est la Halakha, quelle est la loi. Ça, pour ça, on a un Kitsur Shulchan Aruch. On a le recueil du Shulchan Aruch. En deux livres, vous avez tout couvert. Et avec tout couvert, depuis la naissance jusqu'à, d'accord ? Ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Pourquoi on a tellement le Shulchan Aruch qui va développer en long, en large, la Gemara, la Mishnah, le Chumash, etc. Parce qu'en vérité, chaque fois qu'on étudie, quand on étudie quelque chose de positif, ça veut dire une mitzvah que je dois faire, le fait même de l'étudier, je suis en train de générer une énergie positive dans le monde. Quand je vais étudier quelque chose que j'ai pas le droit de faire, le fait même que j'étudie quelque chose que j'ai pas le droit de faire, eh ben, je suis en train de repousser une énergie négative. Il faut que je développe un peu plus ce que ça veut dire, parce que là, ça a l'air abstrait. Le mot moutard en hébreu. Moutard en hébreu, ça veut dire quoi?
Autorisé.
Ah, attention. Traduction littérale.
Permission.
Non.
Autorisé.
On a fait un cours une fois sur ça, il y a 4 mois, avant les vacances. Il y a 5 mois, ouais.
C'est pas fait l'interro.
Pas fait l'interro. On va rafraîchir la mémoire. Entre temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors.
Permis. Autorisé, permis.
Moutard, ça veut dire permis, mais c'est quoi l'étymologie du mot moutard? Voilà, tout à l'heure, on a parlé de la grammaire. Moutard, ça veut dire quoi moutard?
Détaché.
D'accord? Non. Moutard, ça veut dire délié. Délié. Presque. D'accord? Ensuite, assour, ça veut dire quoi? Non? Non? Lié. Lié dans le sens attaché. D'accord? Attends, je vais te dire. D'accord? Cacher, ça veut dire quoi?
Autorisé.
Non? Apte. Passoul, ça veut dire?
Inapte.
Ça veut dire, mais attends, mais quel rapport? On parle de quelque chose qui doit être permis ou interdit, et tu me sors apte, inapte, lié, délié. Et on n'est pas dans une prison, il dit quel rapport lié, délié maintenant? Eh ben, le Zohar explique. Le Zohar explique. Il dit, c'est très simple. Il dit, quand on dit qu'une chose est permise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étincelles de Kedusha qui se trouvent dedans sont déliées. Donc, ça veut dire, elles sont accessibles, on peut les récupérer pour les amener vers un Kadosh Baruch Hu et pour nous en servir nous-mêmes. Quand on dit, on avait fait, voilà, c'est certainement, les anciens se rappellent. Mais, quand on dit qu'une chose est assour, est liée, ça veut dire quoi qu'elle est liée? Ça veut dire qu'elle est bloquée. Ça veut dire que les étincelles sont bloquées.
Ah,
donc, tu prends un morceau de cochon, par exemple. Même si tu fais 15 brachot avant, 15 brachot après. Ça va, j'ai fait la cavana, qu'est-ce qu'il y a, quel problème? Ça marche pas. Parce que les étincelles, il y a des étincelles dedans. Mais les étincelles sont liées. Puisqu'elles sont liées, elles sont bloquées. Donc puisqu'elles sont bloquées, ça sert à rien de faire tes brachot. De toute façon, elles ne pourront pas décoller d'ici. Donc, moutard, ça veut dire délié. Ça veut dire que les étincelles sont accessibles. Assour, ça veut dire lié. Donc enchaîné. Donc les étincelles ne peuvent pas sortir. Moutard, assour. Je continue. Kacher, passoul. Apte, inapte. C'est la même chose. Apte, ça veut dire que c'est apte à être récupéré, à, ça veut dire qu'il y a matière ici, à, on peut travailler avec ça. Inapte, ça veut dire que tu peux rien faire avec ça.
Donc si c'est moutard, c'est que c'est cachère.
Exactement.
Donc c'est un synonyme.
Ça, non, c'est pas un synonyme parce que ça dépend des cas. En général, on emploie le terme cachère pour tout ce qui est alimentaire.
Oui,
et moutard, en général, on emploie le terme moutard pour tout ce qui est action de l'homme.
D'accord.
Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup le terme cachère et moutard. Pourquoi je vous explique ça? Pour expliquer que quand il y a une halakha, c'est pas simplement la halakha sèche. Ça veut dire à savoir, il y a ce qui a permis, ce qui est interdit. Non. Il y a un enjeu derrière. Il y a un enjeu derrière que chaque fois que tu feras quelque chose de positif, tu vas dégager une énergie positive. Chaque fois que tu vas faire quelque chose de négatif, tu vas dégager une énergie négative. Ou tu vas repousser une énergie négative. C'est des choses qui se passent en coulisses. Et c'est pour ça que quand on voit dans l'étymologie des mots, on le retrouve tout de suite. Kacher, pasoul, moutard, assour. D'accord? Vous voyez, vraiment, on voit que c'était dans l'étymologie du mot, seulement on n'a pas prêté attention à ça. Là maintenant, la Gemara Zakan, en utilisant cette piste, il va dire maintenant on va commencer à comprendre pourquoi c'est très important d'étudier toutes sortes de cas, même des cas qui ne nous concerneront jamais. Parce que même si le cas techniquement et physiquement ne te concernera jamais, un cas par exemple, voilà, un cas du Beth Amikdash, Pigoul, bon, ça ne me concernera jamais. D'abord, je suis pas Cohen, d'accord? Le Beth Amikdash n'est pas là. Quand le Beth Amikdash arrivera, ben ils verront déjà. Bon, ça ne me concerne pas. Ben, je perds mon temps en étudiant ça. Non, je perds pas mon temps. Pourquoi je perds pas mon temps? Parce que quand j'étudie ça à la Hot, qu'est-ce qui se passe? Quand j'étudie ce qui est interdit, le fait même d'étudier ce qui est interdit, je suis en train de repousser une énergie négative du monde. Le fait même d'étudier ce qui est permis, je suis en train de générer une énergie positive. Et à quel moment ma chair arrivera? Quand on aura repoussé un maximum d'énergie négative et récupéré un maximum d'énergie positive.
D'accord, elle est où cette énergie positive?
Alors, cette énergie positive, elle est là, elle est en nous. Elle est en nous. Oui. C'est pour ça, j'explique, ça veut dire, c'est pour ça que quand on étudie la Torah avec le temps, on sent que ça change quelque chose en nous. On sent que ça repousse nos mauvais traits de caractère. Et on récupère des bons traits de caractère. Mais ça prend du temps. Parce
c'est
que
ça dont tu parles.
Entre autres. Non, mais ça c'est seulement à l'échelle individuelle. Mais à l'échelle globale, c'est beaucoup plus puissant que ça. Il faut qu'on
on
développe.
On étudie individuel ou global?
Les deux.
Les deux.
Chaque chose, un juif, il a d'abord, ça va le concerner personnellement, mais c'est surtout, ça va être global, ça va concerner tout le Am Israël, tout le clan Israël.
Donc en étudiant, il fait deux choses.
Exactement. Mais là, donc, on va essayer de développer cette notion. Donc, vous voyez, on prend une piste complètement nouvelle. Jusqu'à présent, on croyait que la halakha, c'était juste permis, interdit. Là, on comprend qu'en vérité, on va essayer de comprendre ce qui se passe en coulisses. Et quand on comprend ce qui se passe en coulisses, là, on comprend que même si c'est des cas qui ne vont jamais arriver, alors ça vaut quand même le coup de les étudier parce qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses. Soit on va repousser des énergies négatives, soit on va récupérer des énergies positives. Mais je suis conscient que c'est pour l'instant quelque chose qui est complètement abstrait, quoi, qui est complètement abstrait, qu'il faut développer plus en détail. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, iné modadzot. Je reprends iné modadzot. Marcel va nous dire où c'est.
Troisième ligne.
Inemodadzot, c'est connu. C'est le seul qui n'a pas dit les rêves. Donc... Ah, t'as dit ? Voilà, donc tu restes lucide.
À ma droite,
j'ai le chemin
pour.
Voilà, on a. Un rabbinit Batia, Batara Bensia. On en a cité de début. Alors, Inemodadzot, c'est connu. Shekol Isur Shebaolam. Yeshlo, Shoresh ou Mekor Chaim Biklipot. Chaque interdit qu'il y a dans le monde, même un interdit que concrètement moi je ne ferai jamais et que peut-être personne ne fera, le fait même que ça existe en tant qu'interdit, qu'on te dit ça c'est interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une source. Le fait même que c'est possible d'être fait, ça veut dire qu'il a une source dans les forces du mal. Chez Imloken, parce que sinon, Lo Ayayachol Yod Mtsiut Baolam. Il part d'une base très simple. Si l'interdit existe, ça veut dire que le concept existe. Si le concept existe, ça veut dire que forcément il a une source, il a une base quelque part. D'où il vient ce concept? Un concept ne vient pas de nulle part. Donc s'il y a un concept négatif qui existe, même si moi je le ferai pas, le fait même qu'il existe, ça veut dire qu'il y a une énergie négative quelque part qui existe et qui est là. Et que moi, le fait même d'étudier que c'est interdit, je suis en train de me battre contre cette énergie négative. Parce que c'est un concept. Le fait même que le concept existe, ça veut dire qu'il y a du mal qui est là dans le monde. Un concept, ça vient pas de nulle part. Parce que ce concept, qui c'est qui l'a créé? C'est Dieu qui a créé ce concept. Donc il y a bien une force qui est derrière tout ça. Va filou. Amesalsel, besearo ou kaegavna, mekabel chayuto beregaze mechalot aklipot kemosh ketou bezoar. Ok, donc ça on va développer plus tard. Veilkar, c'est pour ça. Gam prateh isurim shelo baouli demas et merolam boala mazeh agashmi. Même les détails des interdits, des détails qui ne sont jamais venus au stade pratique dans ce monde-ci. Jamais. On va donner des exemples tout de suite. Mikol Makom, quand même. Shorche Chayutam. Étant donné que le concept existe, le concept c'est déjà quelque chose. Le fait même que le concept existe, ça veut dire qu'il y a une existence. Donc le concept, Hen de Metziut Mamash, Bepoel Mamash, Bechalot Aklipot. Ça veut dire que le concept existe, et donc puisque le concept existe, ça veut dire qu'il y a une énergie négative qui existe à cet instant précis dans le monde. Et le fait même d'étudier, quand je suis en train d'étudier que c'est interdit, je suis en train de me battre contre ce concept négatif. Il va donner des exemples. Vegam, apratim, shelo, sheyuchal liot, shelo ayu, on va expliquer tout de suite. Vegam apratim, shelo, sheyuchal liot, shelo ayu, même des détails, que c'est possible qu'ils ne sont jamais existés, velo ayu lola mimtiut, et qui n'arriveront jamais. Il va donner maintenant des exemples. Kegon, par exemple, taout ou jgagot. On a des exemples que nous ramène la Gemara. Alors, on va donner encore un autre exemple, pareil avec des cas toujours biscornus. Excusez-moi du terme. On a, vous savez, chaque année, on devait prélever le maaser. Le maaser, c'est 10%. Alors, il y avait le maaser de la récolte, ça veut dire que quand on avait engrangé, on devait donner 10% de la récolte. Bon, ça c'est relativement facile, tu engranges, après tu sais combien t'as engrangé, tu prends 10%, tu donnes, bon, c'est relativement facile. Mais il y avait un maaser qui était plus compliqué. Pourquoi le maaser qui est plus compliqué? C'est le maaser BMA, le maaser des animaux. On va attendre Rosh Chodesh Elul, et Rosh Chodesh Elul, on dit, bon, alors combien d'animaux sont nés dans le troupeau cette année? 20 animaux? Bon, alors très bien, on va prendre les 20 animaux, on va faire une barre, avec donc une barre comme ça, avec deux barres de chaque côté. On fait passer les animaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, Siri, il est Kodesh. Le dixième, il devient Kodesh. On continue après.
Pourquoi?
C'est comme ça, c'était là, parce qu'il fallait bien une date. Il fallait bien fixer une date. Alors, ensuite on continue.
Chaque année.
D'accord? Chaque année. Dès qu'arrive Rosh Chodesh Elul.
Tu es à l'amour ou pas?
Alors. Dès qu'arrive Rosh Chodesh Elul, tac. 1, 2, 3, 4, 5. Après tu continues. T'as passé le dixième, et ben, on recommence un nouveau compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça c'est facile, tu vas me dire, bah d'accord, c'est très facile. Sauf qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver. C'est quoi le problème qui peuvent arriver? Et ça, vous allez voir que c'est des cas en vérité qui vont jamais arriver. Je compte, et je me trompe dans le compte. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, j'ai pas fini. 10, 11. Et là, quand j'arrive à 10, je dis mince. Celui que j'ai nommé 10, c'était pas le dixième en vérité. C'était le neuvième. Mais entre-temps, j'ai passé 10, 11. Ça veut dire qu'en vérité, celui que j'ai appelé 10, c'était le neuvième. Celui que j'ai appelé 11, c'était le dixième. Alors, lequel est le dixième, lequel est le neuvième et lequel est le onzième? Voilà. Non, tu peux pas. C'est le problème. C'est trop tard maintenant. Hein? Alors attendez, c'est pas seulement ça. Après on te dit, et s'il y a deux qui sont passés en même temps? Et si tu sais pas lequel est passé en premier, lequel est passé en deuxième? C'est des vaches. D'accord. Et si tu te rappelles pas, est-ce que t'as compté dans l'ordre ou t'as pas compté dans l'ordre? Et si tu te rappelles pas, est-ce que t'as compté 1, 2, 3 ou 1, 3, 2? Ah oui. Tu connais des gens, toi, qui comptent 1, 3, 2? Hein? C'est
un chra.
Ben voilà, c'est des cas bizarres. C'est des cas qui n'arriveront jamais. Ce qu'il dit ici. C'est des cas qui n'arriveront jamais. Il y a des cas qui sont logiques. Bon, on va dire éventuellement, le cas de celui qui s'est trompé dans le compte, je peux comprendre. D'accord? Mais, 1, 3, 2, ou bien 2 ils passent en même temps, ou bien je sais pas s'il y a 2 qui sont passés en même temps, etc. Après, bon, après, bon, et si. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, le prof, il nous disait, avec des si, on peut mettre Paris.
En bouteille,
hein, d'accord? Bon, ça veut dire ici. Ben, dans ce cas-là, on serait pas là. On vit sur les statistiques, on vit sur des probabilités, c'est comme ça. Alors, à quoi ça sert de chercher tous ces cas? On est d'accord? Ça, c'est un premier exemple. Des lochayach, bemezid, liot, klipa, shora, alze. Que ça, c'est des cas qui ne pourront jamais arriver. Qui n'arriveront jamais. En tout cas, c'est des cas que, alors, il explique ici. Vous avez dans les mots? Je vous montre dans les mots, parce que j'ai accéléré un petit peu.
Marcel, il a suivi.
Oui, voilà.
Marcel, il a suivi.
Il y a un point. Voilà. Un, deux, trois.
Vous n'avez deux yeux que pour moi.
Si c'est jamais arrivé.
13e ligne.
Nous vont les chercher, c'est
13e ligne. On part en duo.
Avant le crochet.
Voilà, juste avant le crochet, on est au milieu de la page.
Si c'est jamais arrivé, comment ils arrivent?
3e ligne avant la fin.
Comment ils arrivent à trouver ces quatre? C'est sûr que c'est arrivé à un moment donné.
Non, pas du tout.
Mais ils se disent quoi, à un moment donné, ça peut arriver. Mais non.
Ça peut arriver, bien sûr ça peut arriver, mais il y a des cas qui sont jamais arrivés, qui n'arriveront jamais. Ah oui. Tu veux que je te donne un exemple? Viens, je te donne un exemple. Il y a une halakha dans la Torah, une mitzvah de la Torah, qui n'est jamais arrivée et qui ne pourra jamais arriver. Tu sais c'est quoi? Le cas du Ben Sorer ou Moré. Le fils rebelle. Tu connais le cas du fils rebelle? Hein? Le fils glouton, là. Tu connais l'histoire, le fils glouton? Celui qui se révolte contre ses parents, qui mange beaucoup de viande, d'accord? Qui boit beaucoup de vin à 13 ans, et qu'on devra le mettre à mort? Tu connais ce cas?
Non.
C'est un cas qui ne peut jamais arriver. C'est un cas qui ne peut jamais arriver. Parce qu'il y a tellement de restrictions dans ce cas. La quantité de viande qu'il faut manger, la quantité de vin qu'il faut boire, la manière comment ça doit se passer, que la Gemara a dit ce cas n'est jamais arrivé et il ne peut jamais arriver.
Oui, tu l'as dit l'autre jour.
Alors la Gemara pose la question, mais pourquoi on l'étudie alors? Pourquoi la Torah l'a donné? Pourquoi nous on l'étudie? C'est un cas qui ne peut jamais arriver. Elle dit parce que... Alors qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara, non, c'est ce qu'elle répond la Gemara, si ça peut vous rassurer. La Gemara dit, bon, comme ça quand tu vas l'étudier, tu auras le mérite d'avoir étudié la Torah. Ah ouais, merci. C'est ce que tu as trouvé à dire.
C'est bien,
merci, oui, c'est gentil. Bah, vas-y, invente des cas par le. par le tintin, tant qu'à faire. Tu me diras, j'aurai le mérite d'étudier la Torah.
La terre qui est plate.
C'est quoi ces trucs-là? Ça veut dire quoi? Parle-moi des choses concrètes qui peuvent arriver. Torah, on a dit, surtout que Torah, c'est la même racine que Ora'a, qu'un enseignement. Donc on est obligé de dire que quand on étudie la Torah, on n'est pas simplement ici en train de parler de choses abstraites qui n'arrivent pas et de cas qui n'arriveront jamais. On est obligé de dire que quand on étudie la Torah, le fait même d'étudier la Torah, on génère une réalité. On parle d'une réalité, quelque chose qui est une réalité. Ah, tu vas me dire, mais a priori, c'est des cas qui ne vont pas arriver, en tout cas à moi qui ne m'arriveront pas. On te dit, c'est pas grave. Le fait même de parler d'un concept, le fait même que dans ta tête, tu es en train de comprendre, voilà ce qui est interdit, ça veut dire que dans ta tête, tu es en train de battre avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te dit, il y a un concept qui existe, qui peut exister. Et moi, qu'est-ce que je dis à mon Yetzer Hara? Je dis, ben, tu vois ce concept? Tac! Il est interdit. Eh ben, ce qui est en train de se passer derrière les coulisses, c'est que je suis en train de me battre avec une force du mal. Je suis en train de me battre avec un concept. Même si moi, je l'aurais jamais fait, le fait même que je me bats contre le concept et que je me dis, ça, c'est assourd, voilà comment c'est assourd, voilà comment c'est permis, eh ben, je suis en train de repousser une force du mal. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, on génère une réalité. Même si on croit qu'on fait rien, on génère une réalité. On va développer un plus en détail cette notion-là. Parce que c'est une notion qui est très très puissante, ça. Donc il dit ici, donc je saute le crochet. Mikol makom, quand même. Al kol panim, yeshno bimtsiut. Le havdil, j'ai sauté le crochet, hein. Le havdil, bechorma ilaha, shenit pashta bifratze le moshir abenu ala vachalam besinai. Il dit, c'est très simple. Et tu dis, ne crois pas que ces cas, alors, la question de David, que David a posée, il a dit, mais quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est des cas qui ont été inventés? Non. Ces cas n'ont pas été inventés. C'est écrit que toute halakha qu'on développe, même une halakha qu'on va découvrir aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on va parler de nouveaux cas, d'accord? Comme par exemple l'électricité, etc., des réalités qui n'existaient pas à l'époque. Et ben, qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit que tous ces cas ont déjà été donnés à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Comment tu peux dire qu'ils ont donné Moshe Rabbeinu au Sinaï? Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas l'électricité. Ouais. Il n'y avait pas la voiture, il n'y avait pas tout ce truc-là. Comment tu peux dire que c'était donné à Moshe Rabbeinu? C'est le concept. Ça veut dire quoi le concept? Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un concept. Il y a un concept, il y a une chose qui est permise. Ça veut dire quoi permise? Ça veut dire qu'on peut récupérer cette énergie pour l'emmener vers Akadosh Baruch Hu. Il y a une chose qui est interdite. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui n'est pas récupérable. Le fait même que mon cerveau est occupé, c'est-à-dire qu'il y a je vais utiliser de l'énergie, de mon temps, de ma tête, pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu pense de ce cas, qu'est-ce que Dieu pense de ce cas, et ben quelque part je suis en train de me battre avec le concept. Je suis en train d'analyser le concept et donc je suis en train de récupérer l'énergie qu'il y a derrière le concept. Il va donner encore des exemples. D'ailleurs c'est une notion très puissante, c'est ce qu'il dit ici que la Gemara a dit que tout ce qu'un élève, chaque ridouche qu'un élève fera a déjà été donné à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. L'Arbi pose la question, il dit mais comment on peut dire ça que tout ce qu'un élève va découvrir a déjà été donné à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. On sait très bien l'histoire que la Gemara raconte, qu'une fois, Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, montre-moi comment on va étudier la Torah dans le temps. Alors Dieu lui a montré, Dieu l'a propulsé dans le temps, et il a montré le Beit HaMidrash de, vous connaissez l'histoire, de Rabbi Akiva. Et dans ce Beit HaMidrash de Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu il voit un grand Beit HaMidrash avec Rabbi Akiva en tête, tout le monde en train d'étudier, et il voit Rabbi Akiva en train de faire un Dvar Torah. Et Moshe Rabbeinu, il est là, il comprend rien. Il comprend rien à ce qu'il se raconte. Lui, il a l'habitude de la Torah. Bon, c'est très basique. C'était des cas, voilà. Tu mangeras pas la viande avec le lait, etc. Bon, c'est très, très, très basique, quoi. Et là, il arrive avec Rabbi Akiva. Vous savez, on dit que Rabbi Akiva, il était capable sur chaque tag. Les tags, c'est les petites courants qui sont sur les lettres. Sur chaque tag, il était capable de trouver 150 à la rote. Et Rabbi Akiva, il disait, si la Torah n'avait pas dit explicitement que le reptile est interdit, j'aurais pu trouver 150 preuves de la Torah que le reptile est permis. Avec des déductions et des calvachomères, etc. Pour vous montrer la logique de Rabbi Akiva, qui a une logique extraordinaire. Alors, Moshe Rabbeinu, il est là. Et donc, il écoute en live, le discours. On l'a propulsé dans le temps. Le discours de Rabbi Akiva. Et il comprend rien. Il dit, mais c'est pas la Torah que j'ai reçue, ça. C'est pas ce que j'ai reçu, ça. Je connais pas, ça. Alors, il se tourne vers Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il voit que Moshe Rabbeinu, il est pas bien. C'est maintenant, c'est moi, Moshe Rabbeinu, je comprends pas ce qu'il raconte, c'est un problème, là. C'est lui qui aurait dû recevoir la Torah. Donc, Moshe Rabbeinu, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais, c'est Rabbi Akiva, c'est lui qui aurait dû donner la Torah, je comprends rien à ce qu'il raconte. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, attends la suite du film. Et il continue dans la suite comme ça, il voit le Dvar Torah, Moshe Rabbeinu, il comprend toujours rien. Et là, à un moment, il entend, Moshe Rabbeinu, il entend qu'il y a un élève qui pose la question à Rabbi Akiva, qui lui dit, mais Rabbi, d'où vous tirez cet enseignement-là? Et là, Rabbi Akiva lui se dit, ah, ça on l'a appris à la chat de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, il dit, ah, ça va.
C'est moi, tu vois.
On a parlé de moi.
Ils se souviennent de moi.
C'est-à-dire que le reste, c'est du développement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, alors, le Rabbi pose la question, il dit, mais comment on peut dire que dans ce cas-là, tout est donné à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï? D'après l'histoire qu'on vient de raconter, on voit que Moshe Rabbeinu était complètement largué. Ouais, donc ça n'a pas été donné à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Quoi la réponse? La réponse, dit le Rabbi, c'est qu'en vérité, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu? Il a donné les principes. Il a donné la base, c'est le texte du Chumash, et il a donné les principes avec lesquels on peut étudier la Torah. Maintenant, une fois que tu utilises ces 13 principes, il y a 13 principes, maintenant tu peux utiliser plusieurs principes en même temps. D'accord? Et tu peux le faire avec un mot, avec deux mots, avec 10 mots, avec 50 mots. Quand tu comptes que dans la Torah, t'as 303 000 quelque chose mots, et qu'avec chacun de ces mots-là, tu peux t'amuser à faire, enfin pas t'amuser, mais c'est-à-dire tu peux faire des déductions, etc. C'est-à-dire qu'en vérité, avec les principes, c'est sans fin. C'est un petit peu comme les mathématiques. Ça veut dire que on t'a donné les bases, et avec ces bases, après, mais tu fais ce que tu veux. C'est à l'infini. Donc c'est pour ça qu'on dit que le concept a été donné à Moshe Rabbeinu, comme Michael l'a dit. Le concept était donné à Moshe Rabbeinu, mais après concrètement le développement et même comprendre ce qu'on va faire avec ce développement, peut-être que Moshe Rabbeinu lui-même était largué parce que il n'a pas réalisé, il a fallu des dizaines et plusieurs siècles pour réaliser l'ampleur, comment ces concepts-là peuvent aller très très loin. On a pris du temps pour réaliser ça. D'accord, mais pour montrer quoi? Qu'en vérité, le concept existait déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le concept? C'est qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est apte, qu'est-ce qui est inapte, qu'est-ce qui est lié, qu'est-ce qui est délié. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut récupérer pour la Kedusha, qu'est-ce qu'on peut pas récupérer pour la Kedusha. Et le fait même d'étudier un concept, le fait même que mon cerveau s'occupe pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je fasse et qu'est-ce que Dieu ne veut pas que je fasse, et ben à ce moment-là même, je suis en train de générer une énergie positive pour quand je développe les choses permises, et je suis en train de repousser des énergies négatives quand je me bats contre un concept négatif. D'accord? Donc c'est quelque chose de très puissant, et ça, je pense, on ne le retrouve pas dans d'autres sciences. Parce que là, on a quitté la science, là. On n'est même plus dans la science, là. Là, on est dans la science-fiction, là. On est en train de générer des choses nouvelles. Il va donner d'autres exemples. Il dit maintenant, V'chol praté aïbayod Rabbi Yirmiyah. Vous savez, il y a un maître dans la Gemara. Hein. Ah, dommage qu'il n'est pas l'âme subissime. Il aurait aimé Rabbi Yirmiyah, lui. Alors, vous lui raconterez Shabbat. Il y a un maître dans la Gemara qui s'appelait Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il aimait poser des questions. Mais des questions à chaque fois. C'est pas tordu, mais des questions qui peuvent jamais arriver. Mais attention. Attention. Non, je veux pas que... Des questions très intelligentes. Que des fois, les chachamim prenaient longtemps avant de comprendre. Mais seulement, ce qui dérangeait les chachamim, c'est que c'était des questions qui n'allaient jamais arriver. Alors, à un moment, ils en ont eu marre. Ils ont dit, arrête avec tes questions. Quand il s'est pas arrêté, ils l'ont viré. Ils ont dit, dehors, tu arrêtes avec tes questions, et tant que tu arrêtes pas avec tes questions, tu reviendras pas. Et c'était un rave, hein. Mais bon, ils ont, est-ce qu'il venait, il saoulait avec des questions qui n'allaient jamais arriver? D'accord? Alors, non, Chas v'Shalom. Non, pour dire, non, pour dire que c'est une forme d'intelligence. Non, Chas v'Shalom. C'est contraire. C'est surtout pas dans une connotation négative, Chas v'Shalom. Pour dire que c'est une nature. Il y a des natures des gens qui sont comme ça. Il y a des natures des gens qui sont comme ça, qui sont constamment en train de chercher des questions. Vous savez, on dit une fois, il y a quelqu'un, que quand il était en bas, ici bas sur terre, chaque fois qu'il y avait un rave qui faisait une dracha, il posait des questions et il faisait tout pour casser la dracha du rave. Bah. Et à chaque fois, il disait, bon, au lieu de casser les drachas des autres, fais-toi une dracha. Il dit, non, moi je sais pas faire des drachas, mais par contre, casser les drachas des autres, c'est ce que je sais faire. D'accord. Alors il arrive en haut, après 120 ans, et Dieu lui dit, alors, qu'est-ce que t'as fait pendant 120 ans? Répète-moi un Dvartora. Il dit, désolé, j'ai pas de Dvartora à répéter, mais si tu veux Dieu, tu peux faire un Dvartora et...
Allez, je te dirai ce qui reste, papa.
C'est une nature, ça veut dire. C'est des natures, des gens qui sont comme ça. Comme Rabbi Yirmiyah. Et donc, pourquoi il nous amène ça, ces cas de Rabbi Yirmiyah? Parce qu'on voit que concrètement, bien que Rabbi Yirmiyah, à un certain moment, les sages, même les sages n'en pouvaient plus, qu'à un moment, ils l'ont renvoyé du Beit HaMidrash, mais pourtant, les cas de Rabbi Yirmiyah sont dans la Gemara. On les étudie. Mais pourquoi on les étudie? Tu m'as dit que c'est des cas bizarres. D'accord. C'est des cas qui n'arriveront jamais. Ah, pourquoi on les étudie? Pourquoi ils sont dans la Gemara? Pourquoi la Gemara nous raconte le cas de Rabbi Yirmiyah? Bahé Rabbi Yirmiyah. Moi, vous savez, quand on étudie la Gemara, surtout dans le traité Baba Métier, il y a beaucoup de... Quand on voit, je me rappelle depuis l'école, hein, quand on voyait Bahé Rabbi Yirmiyah, on savait que ça veut dire apposer la question à Rabbi Yirmiyah en araméen. On savait qu'il allait avoir une question qui est... Et d'ailleurs, en général, non, mais c'était pour vous montrer que c'est des questions très intelligentes, c'est qu'en général, la Gemara ne trouve pas de réponse aux questions de Rabbi Yirmiyah. En général, la Gemara, dans la majorité des cas, elle reste avec Tekou. Tekou, ça veut dire match nul. Ça veut dire, on dit, bon, on n'a pas de réponse. Pas parce qu'on n'a pas cherché. Parce que c'est des questions, des fois, qui sont tellement puissantes qu'on n'a pas de réponse. Mais bon, c'était des cas qui vont jamais arriver. Pourquoi on les étudie? Alors que ce même Rabbi Yirmiyah qui a été renvoyé à un moment du Beit HaMidrash, comme la Gemara raconte, parce qu'on n'en pouvait plus. Pourtant, ce même Rabbi Yirmiyah, on a des dizaines de cas, de questions à lui qui sont ramenées dans la Gemara. Pourquoi on les ramène? Parce que, même si à un moment dans le Beit HaMidrash, on n'en pouvait plus parce que bon, c'était trop. Mais on étudie ces cas quand même, parce que puisque c'est des concepts qui existent, le fait même que le concept existe, le fait même que j'étudie ce concept, je suis en train de me battre d'une certaine manière avec les forces du mal, et je suis en train, dans le cas de cas positif, de générer une énergie positive. Donc c'est la raison pour laquelle on continue à l'étudier dans la Gemara. D'accord? Il continue. Il dit aussi, il y a les cas aussi de Kararto Beperek Dalet Dechulin. Alors, il y a un cas dans la Gemara, un autre cas dans la Gemara. Aujourd'hui, on a plein de cas pratiques aujourd'hui. Hein, c'est un peu des travaux pratiques aujourd'hui. Alors, il y a un cas, vous savez que normalement, on a une halakha qui dit que de la même manière que le premier enfant qui sort du ventre de la mère, il est dédié au Kohen. Donc le Kohen, il y a la notion du Pidyon HaBen. D'accord?
Pour les garçons.
De la même manière, il y a pour les animaux. Que les animaux, quand un animal qui est enceinte, quand un animal qui va accoucher, le premier bébé, quand Peter Rechem, ça veut dire celui qui a ouvert le ventre, c'est-à-dire le premier bébé, il sera dédié à Kadosh Baruch Hu. Alors la question, elle est comme ça. La Gemara pose la question, elle dit, si maintenant, il y a eu, c'est un cas qui va jamais arriver, hein. Si maintenant, elle va accoucher des jumeaux. Donc un animal, elle va accoucher des jumeaux. Déjà, c'est un cas qui est pas très fréquent. D'accord? Qui est beaucoup moins fréquent que chez les hommes. Mais bon, imaginons. Donc, un animal va accoucher des jumeaux. Il y avait un garçon et une fille. Donc, un mâle et une femelle. Bon. Et la femelle, le mâle est sorti en premier. D'accord? Mais la femelle l'a attrapé. Et ils sont sortis comme ça ensemble.
Ouais. C'est toujours le mâle. Quel est le
bécho? Alors, lequel est sorti en premier?
C'est toujours le mâle qui est sorti en premier.
Et ça, c'est une question de qui, bien sûr?
Ça dépend.
C'est une question de qui, ça? Non, mais attendez, c'est une question. Qui c'est comme. Voilà. Ah, voilà, on a Jérémy.
Jérémy,
donne un exemple. Jérémy, bisous. Ok, Jérémy, on a compris. Le pauvre, il se sentit. T'inquiète pas, on te mettra pas dehors.
Il s'appelle
Jérémy. En plus, il était
content de
venir ce soir.
C'est un cache, j'ai suivi ça une fois avec Gravir Mia. Il était unique. Hein. Tu sais, des fois, on passe des heures pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais c'est très profond. Quand tu comprends précisément, tu te dis, ah, la question est puissante. Bon, alors, le cas que la Gemara pose là-bas. Ouais. D'accord, c'est quoi le cas que la Gemara pose? Donc, comme on a dit. Hein. Ah non, j'ai pas répondu. C'est quoi le cas? Je veux simplement montrer qu'il y a des cas qui n'arriveront jamais. Le cas, donc, c'est la femelle qui attrape le mâle, ils sortent comme ça, et ils restent comme ça jusqu'à qu'ils sont sortis, et après, nous, on les voit comme ça, et on sait pas lequel est sorti en premier. D'accord? La Gemara dit clairement là-bas que c'est un cas qui, techniquement, si on cherchait dans les probabilités, c'est un cas qui, la probabilité est pratiquement nulle. Elle n'arrivera pratiquement jamais. Et pourtant, elle étudie. Parce que c'est un concept qui existe. Comme c'est un concept qui existe, il faut l'étudier. Pourquoi ? Il explique ici. Qui pêche tout chorma ilaha ibibrinat ensof. Parce qu'en vérité, la chorma d'Akadosh Baruch Hu, c'est ensof. Ensof, ça veut dire quoi ? C'est l'infini. Ça veut dire que c'est quoi la Torah ? La Torah, c'est la chorma de Dieu. La chorma de Dieu, c'est infini. Donc, puisque c'est infini, donc automatiquement, les concepts qui peuvent être dérivés de la Torah sont eux aussi infinis. Et tu peux développer concept, autant de concepts que tu veux, et toujours on te dira, mais tu peux aller encore plus loin, encore plus loin. Et c'est pas grave. Il n'y a jamais de cas inutile. Peut-être qu'ils seront inutiles dans le monde de l'action. Mais le fait même que tu étudies le concept, eh ben, quelque part, tu es en train d'étudier un concept divin. Donc c'est déjà quelque chose de gagné. Mais étant donné que la Torah, c'est ensof, c'est infini, donc il n'y aura jamais de fin. Tu pourras toujours aller encore plus loin, encore plus loin. Ça ne s'arrêtera jamais. Comme Jackie l'a dit tout à l'heure, il a dit, ça fait 2000 ans, et, enfin, 3000 ans, 3300 ans pour la Torah, 2000 ans pour la Gemara. Et ça continuera. On ne s'arrêtera jamais. Parce que la Torah, c'est ensof, c'est infini. Ça ne s'arrêtera jamais. Ameloubash bab epoel mamash. En vérité, la chance qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée quand il nous a donné la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a mis l'infini dans un livre.
L'infini dans le fini.
L'infini dans le fini. Ça veut dire qu'il t'a dit, je vais te donner un outil fini, et avec cet outil fini, tu peux aller jusqu'à l'infini. Donc c'est à l'infini. Tu peux aller où tu veux. Tu peux aller où tu veux, tu pourras aller où tu veux, jamais ça s'arrêtera. Alors, non, c'est une limite, ça.
Il se termine.
C'est compliqué, mais il se termine.
Vechol prat alacha, ou sha'ar, an nimshach mechorma ila'a, ve yasad brata, ou mimeina nimshach ou mitlabesh bria itirasia.
Bon, ça, c'est des termes un peu de Kabbalah. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est la chorma de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Cette sagesse va créer les midot. Et ces midot-là, c'est quoi? C'est la Torah qu'on va étudier. Mais cette Torah, d'où elle vient? Elle vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est expliqué longuement dans le cinquième chapitre du Tanya. Parce que Bezrat Hashem a eu tête qui se lève, comme on a dit. On va terminer donc le Tanya. On va tout recommencer depuis le début. Je vous montre ce livre, mais c'est le quatrième tome sur quatre tomes. Alors, on va tout recommencer depuis le début. Et on étudiera le cinquième chapitre. Dans le cinquième chapitre, il étudie. Vous verrez que quand vous étudierez le cinquième chapitre, vous ne regarderez plus la Torah de la même manière. Là-bas, il explique la chance qu'on a quand on étudie la Torah. Quand on étudie la Torah, c'est comme si on prend un morceau d'Akadosh Baruch Hu dans sa tête. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand j'étudie la Torah? Quand j'étudie la Torah, il y a une logique qui se trouve dans ma tête. Où est cette logique? Elle est dans ma tête. La preuve, c'est que même si j'y pense plus maintenant, dans 2-3 jours, quand je vais vouloir y penser, bah, je vais me mettre à réfléchir et pac, l'idée va revenir. Où était l'idée? Elle était dans ma tête, elle était dans mon cerveau. D'accord? C'est-à-dire que mon cerveau, physiquement, contenait une idée. Si je te dis maintenant que cette idée que ton cerveau contenait, c'était la Torah. Et que la Torah, c'est la chorma d'Akadosh Baruch Hu. Et que l'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ana nafshi kadvit yavit, que la Torah, je me suis mis dans la Torah. Mon âme, mon essence, je l'ai mise dans la Torah. Ça veut dire qu'en vérité, quand j'étudie un mot de Torah, j'ai une partie de l'essence de Dieu dans ma tête. Alors là, je vous le dis comme ça, là, rapide, hein, d'accord? Mais si, vous allez voir quand on va le développer, ça va donner des frissons. Parce que tu vas dire, mais attends, t'imagines, ça veut dire que dans ma tête maintenant, j'ai un morceau d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait peur, ça fait très peur. Mais ça fait peur pour les pensées négatives aussi. Ça veut dire quand tu as une pensée négative qui est là dans la tête, elle partira pas cette pensée. Elle va être là. La preuve c'est que tu pourras t'en rappeler. Donc ça veut dire que j'ai un morceau de mal dans ma tête. Il est là. La preuve c'est que c'était la mémoire. Où il était? Il a pas disparu, il est dans ma tête. Il plane pas au-dessus de moi, il est dans moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'il veut expliquer ici, c'est que la chorma d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans ma tête. Maintenant, la chorma de Dieu, comme c'est une chorma qui est ensof, ça veut dire infini. Donc, nos limites, on pourra développer, ça ne s'arrêtera jamais. Alors, Venoda. Bon, ça c'est un peu les temps de Kabbalah, on va sauter quelques lignes. Ubaze Yuvan, on va prendre Ubaze Yuvan. Alors, attendez.
3, 7e ligne.
Alors, on va prendre à Ve'aliyede et Seka Alachot.
T'as changé là.
Qu'est-ce que je vous ai dit?
Ouvazé Yuvan.
Ouvazé.
7e ligne, c'est 2.
Non, 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 non. Je vous prends, parce que j'ai pas les mêmes paginations que vous. On va prendre. Attendez. Non, ça va prendre un peu plus tôt. Validé, c'est Kalachat, Bidibon, Parchim, Vendimik Doucha, d'accord, bon, ça c'est bon, on l'a déjà fait à l'oral. Alors, j'arrive pas à en trouver là. Ah voilà, Vaïnou, on va prendre la deuxième ligne. C'est là, c'est là que je voulais arriver. Vaïnou Kanoda, Mima Shamrou,
après les crochets.
Voilà. Vaïnou Kanoda, donc je suis à la page maintenant, Kouf Samer.
319,
et on va prendre la deuxième ligne. Vaïnou Kanoda, c'est comme ce qui est connu. Mimash Amrou, de ce qu'on dit les Chachamim, Al Shelo Baruchu Batorah. La Gemara dit comme ça. La Gemara dans le traité Nedarim, elle dit, Alma Avda Aretz, à cause de quoi la terre a été détruite, en parlant du, quand on parle de la terre, on parle de la terre d'Israël. Non, on parle de la terre d'Israël. Et quand on parle de la destruction de la terre, on parle principalement de la destruction du Beit HaMikdash. Et là-bas, la Gemara a dit, à cause de quoi le Beit HaMikdash était détruit, une des raisons pour le Beit HaMikdash était détruit, dit la Gemara, Al Shelo Baruchu Batorah Trila, à cause qu'on n'a pas fait la bénédiction de la Torah. C'est-à-dire que chaque fois, avant d'étudier la Torah, on a une bénédiction à faire. Shabbat harbanu mikol amim, venatalenu torato, baruch ata Hashem, venatana Torah.
On le fait le matin maintenant.
On le fait le matin. Parce que sinon, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. D'accord? Bon. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit, à cause de quoi le Beit HaMikdash a été détruit, à cause de quoi la terre a été perdue, donc a été détruite, à cause qu'on n'a pas fait cette bénédiction-là. Alors, les commentaires posent la question, ils disent, mais quoi, ça veut dire que techniquement, ils lisaient pas la bénédiction? Non. Bien sûr qu'ils lisaient la bénédiction. C'est des gens religieux. Ils lisaient la bénédiction. C'est quoi le problème? Quand on dit al shelo baruchu batorah trila, ça veut dire que les juifs, écoutez bien ce qu'on va dire, étaient perdus dans l'aspect technique de la Torah. Et ils ont oublié que derrière cet aspect technique de la Torah se cache un concept divin. Quand on est en train de dire qu'ils n'ont pas fait la bénédiction de la Torah, c'est pas qu'ils n'ont pas lu la bénédiction, ils ont lu la bénédiction. Mais des fois, quand on étudie la Torah, quand on étudie surtout la Gemara, on peut se perdre dans les détails techniques. À tel point que tu oublies que derrière ça, il y a un Dieu. Et qu'en vérité, on est en train d'étudier la volonté de Dieu. Quand la Gemara te dit que c'est permis, ça veut dire qu'on est en train d'expliquer que Dieu pense que c'est permis. Quand la Gemara te dit que c'est interdit, ça veut dire qu'on veut t'expliquer que Dieu pense que c'est interdit. Eh ben, un des grands pièges qu'ont eu les Juifs, qui étaient très religieux, à l'époque du premier temple, on a perdu le premier temple parce qu'on n'était pas religieux. Mais à l'époque du second temple, les Juifs étaient religieux. Alors pourquoi ils ont perdu le deuxième temple? Pour deux raisons. D'abord, à cause de la haine gratuite, ça vous connaissez la raison, la haine gratuite, d'accord, qui était particulièrement entre les Juifs religieux. Parce que plus on a la Torah et plus le Yetzirah est puissant pour mettre la sin atrinam, la haine gratuite, pour séparer les gens. Et donc on a vu vraiment comment ça a détruit malheureusement le Ham Israël. Et la deuxième raison que donne la Gemara, c'est quoi? C'est Al Shelo Baruchu Batorah Trila, parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction de la Torah. Donc d'où la question qu'on a posée. Si tu me dis qu'ils sont religieux, bah bien sûr qu'ils ont lu la bénédiction à Shabbat Rabbanu Mikolamim et Natalenu et Torato, Baruch HaTashem et Natalenu Torah. On dit non. C'est pas lire la bénédiction qui nous dérange. Ils n'ont pas compris le sens de la bénédiction. Je vais traduire la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Béni sois-tu Hashem, notre Dieu, le roi du monde. Asher bachar banu mikol ha'amim. Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. Venatan lanu, et il nous a donné et Torato sa Torah. Oui, juste ces quatre mots-là. Venatan lanu et Torato. Il nous a donné sa Torah. Si on prenait le temps de réfléchir à ce qu'on disait, on comprendrait que quand on étudie la Torah, il ne faut pas se perdre dans les détails techniques. Bien sûr qu'il faut étudier les détails techniques, mais derrière ces détails techniques se cachent des concepts spirituels très puissants, c'est-à-dire se cache une gdoucha extraordinaire. Et ben, une des raisons pour laquelle le Beit HaMikdash a été détruit, parce qu'on a eu des juifs religieux, mais que des fois, malheureusement, ce qui peut se passer, c'est qu'on se perd dans les détails techniques.
Ouais, mais il y en a des tas. On dirait qu'il n'y a que ça.
Eh ben oui, ça arrive très souvent, ça.
C'est pour ça qu'on se perd.
Des fois, on peut se perdre dans les détails techniques, ça veut dire que du coup, quand on dit c'est quoi la Torah, ben, tu dis voilà, la Torah dit voilà comment le lait, voilà comment la viande, et le lait, la viande, etc. Tu dis, mais attends, mais bon, le lait, la viande, etc. Mais de quoi tu parles? De qui tu parles?
200 pages.
De qui tu parles? De quoi tu parles? Pourquoi tu parles de ça?
Sans les commentaires.
Et des fois, quand on est dans les commentaires comme ça, quand on rentre dans les commentaires, des fois, surtout quand on approfondit, on peut perdre, on peut oublier d'où on vient et pourquoi on étudie tout ça. Et ben, dit la Gemara que c'est une des raisons pour laquelle le Beit HaMikdash a été détruit. Pourquoi la Gemara Zaken nous ramène ça ici? Ben, c'est pour nous dire, c'est exactement ce qu'on dit ici. C'est quoi la question qu'on a posée au début du cours? Mais pourquoi tu parles des cas qui vont jamais arriver? Dans quel cas la question me dérange? c'est quand je m'arrête sur les détails techniques, quand je pense que je suis en train d'étudier des détails techniques. Donc quand je pense que je suis en train d'étudier des détails techniques, alors c'est comme si je suis en train d'apprendre un métier, je suis en train d'apprendre à faire garagiste, et tu me parles des cas qui vont jamais arriver. Alors qu'est-ce qu'il va dire l'apprenti ? Il va dire, mais pourquoi tu parles de ce cas ? Il va jamais arriver. Parce que si tu penses que tu es en train d'apprendre uniquement des détails techniques, bien sûr tu vas buter, tu vas dire, mais ça m'intéresse pas, c'est des cas qui vont jamais arriver. Mais si tu es en train de comprendre qu'on n'est pas en train d'apprendre ici les détails techniques, que derrière les détails techniques se cache une énergie, on est en train d'apprendre la chorma d'Akadosh Baruch Hu. La chorma d'Akadosh Baruch Hu, chorma ilaha, la chorma suprême, qui est une chorma infinie. Automatiquement, ça prend une autre dimension. Automatiquement, même si le cas ne m'arrivera jamais à moi, c'est pas grave. J'étudie la chorma de Dieu, j'ai un morceau d'Akadosh Baruch Hu dans ma tête, donc ça me dérange beaucoup moins. Ben, sachez que c'est une des raisons pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Donc, quand on voit ça de cet angle-là, déjà, ça nous dérange beaucoup moins, parce qu'on comprend qu'on n'est pas là en train d'apprendre des détails techniques. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou je repasse encore une couche?
Non, c'est bon.
C'est clair?
Le problème, c'est qu'il faut essayer de comprendre les détails.
J'ai pas dit qu'il faut pas les comprendre.
Il fallait pas les comprendre.
Regarde, je te donne.
Vas-y, de.
J'ai pas dit qu'il faut pas les comprendre.
Il faut le comprendre.
Je te donne un exemple. Imagine-toi, par exemple, récemment, j'entends beaucoup, des fois, tu sais, les jeunes, des fois, quand ils sont à la, bon, ils ont eu le bac avec pension, etc. Après, ils sont à l'université. Et récemment, plusieurs jeunes comme ça, ils ont la tête à fond dans les études. Mais à fond, à tel point que tu viens leur dire, voilà, je les appelle pour leur dire, viens au Fabringen jeudi soir. Tiens, je peux pas, j'ai les études. Je dis, mais attends, mais pourquoi tu fais les études? C'est-à-dire, tellement ils sont dans les détails techniques, et on veut avoir tel contrôle, et un tel a dit, et tel cours qu'on a raté, et tel cours qu'on doit rattraper, tel cours qu'on doit comprendre. Mais pourquoi tu fais tout ça? Tu fais tout ça pour avoir une parnassa. Pour avoir une parnassa, pourquoi? Pour vivre bien. Et voilà, quand je te le propose de venir maintenant à un cours de Torah, c'est aussi pour vivre bien. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on est en train de, faut pas perdre le fil, faut pas oublier pourquoi tu es là, pourquoi on est en train de faire tout ça. Ben, très souvent dans la vie, surtout quand on étudie des choses complexes, on se perd dans les détails. Ça veut dire qu'on se perd dans les détails et on oublie pourquoi on est là. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'étudie la Torah? C'est pour ça qu'il dit ici. Dans quel cas ça nous dérange quand on étudie des cas comme ça? C'est quand on croit qu'on est venu ici pour étudier des cas techniques. Alors je dis oui, les cas techniques, ils m'intéressent pas ces cas techniques, c'est un cas qui ne m'arrivera jamais. Mais quand on comprend que Birkat HaTorah, que Venatan lanu et Torato, que Dieu nous a donné sa Torah et que la Torah de Dieu c'est la Chorma infinie, on comprend qu'il y a nos limites, il n'y a pas de limite, et qu'en vérité, peu importe si le cas arrivera ou il n'arrivera pas, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, si le cas arrivera ou n'arrivera pas? J'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est que j'étudie un concept divin, que j'ai un concept divin dans ma tête, et que je suis en train de déployer une énergie positive et de repousser les énergies négatives. Ça, c'est le plus important. Le reste, qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est pas grave, ça arrivera, ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi, il va expliquer tout de suite, voilà pourquoi c'est important pour chacun de nous d'étudier les 613 mitzvot. Vous savez que dans les 613 mitzvot, il y a au moins 200 mitzvot, que celui qui n'est pas Kohen ne pourra pas faire. Voilà, on a un Kohen ici. Le Kohen, à vous tout seul, vous couvrez 200 mitzvot. C'est-à-dire, celui qui n'est pas Kohen, déjà, c'est pas 613 qu'il a. Et tu peux zapper pratiquement 200. Ensuite, tu enlèves, il y a les mitzvot du roi. D'accord? Le roi. D'accord? C'est-à-dire, le roi. Donc le roi, il a juste à lui 40 mitzvot. Ensuite, tu as les mitzvot pour le chef du Sanhedrin. Hop! Encore, tu le rajoutes encore 20, 30 mitzvot. Et chacun, tu vois, tu mets comme ça, tu mets des mitzvot. À la fin, quand tu restes, quand tu vois combien il reste, même, il y a une mitzvot, par exemple, c'est la mitzvot de divorcer. Bah, c'est, attention, c'est pas une mitzvot de divorcer.
Ah ouais.
C'est mitzvot, attention.
Ah ouais.
Je vais expliquer.
Ah, j'ai pas fait,
d'accord?
Vous vous dépêchez, les gars.
La mitzvot de divorcer, c'est que, si la personne divorce, voilà comment il devra le faire. Ça, c'est la mitzvot. C'est pas qu'il doit divorcer.
Pas pareil,
hein. Voilà. Donc, justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, d'abord, il y a un paquet de mitzvot, il y a au moins 50% des mitzvot qui ne me concernent pas. Qui ne peuvent pas me concerner. Parce que je suis pas Cohen, je suis pas roi, je suis pas chef du Sanhedrin, d'accord? Je suis pas chef, donc voilà, je suis 50%. Et même dans ces 50%, t'as une grande partie des mitzvot qui sont pas des ordres, des injonctions. C'est, si un cas comme ça t'arrive, voilà ce que tu devras faire. D'accord? Comme les cas du Shabbat, allez, tiens. Vous connaissez dans le Shabbat, il y a 39 travaux dans le Shabbat. D'accord? Dans ces 39 travaux, il y a un paquet de travaux qui concernent les agriculteurs. D'accord? Semer, labourer, d'accord? D'accord? Non. T'as un bon paquet de travaux qui ne nous concernent pas. Ça veut dire que si tu cherchais des détails techniques, t'as pas 613 mitzvot. Tu vas en avoir maximum 200 qui te concernent. Maximum 200, pas plus. D'accord? Aujourd'hui, le maximum de mitzvot qu'on peut accomplir, c'est-à-dire même celui qui il va divorcer sa femme, il va tout faire toutes les mitzvot, d'accord? Il va faire tout, ça veut dire qu'il va passer par tous les cas. Le maximum possible c'est 207 mitzvot.
S'il est Kohen.
207.
Non,
207. Le maximum possible. Personne aujourd'hui qu'on est en exil, personne peut dépasser 207. C'est impossible.
D'accord? Et avec ça, comme je dis, avec ça, il y a plein de mitzvot que c'est, si le cas arrive, voilà comment tu devras faire. D'accord? C'est des cas qui n'arriveront jamais. Alors, concrètement, pourquoi on les étudie? C'est évident que ce qu'il veut expliquer ici, c'est que la raison pour laquelle on te demande d'étudier les 613 mitzvot, c'est pas seulement pour, techniquement, parce que ça va m'arriver ou ça va pas m'arriver. Non. Je les étudie parce que c'est la chorma d'Akadosh Baruch Hu et parce que c'est un concept divin. Et ça même, c'est la raison pour laquelle j'étudie. Après, le reste, c'est un cas qui arrivera ou qui arrivera pas, mais j'en ai rien à faire.
C'est un ratson aussi.
Exactement. Ouais. Non, plus que ça. Tu dis, c'est un ratson, c'est une volonté de Dieu. Mais si c'est une volonté de Dieu d'un cas qui ne m'arrivera pas, donc je dis, ça me concerne pas. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher quelque chose qui est plus loin que l'aspect technique.
Tu veux dire que la mitzvah d'étudier, elle est plus clarique que
bien sûr.
Le fait d'étudier un truc qui te concerne.
Bien sûr. La mitzvah d'étudier, c'est pas seulement sur les choses qui me concernent. C'est de manière générale étudier un concept divin. D'accord? Merci.
Je suis pas en train de dire que dans ce cas-là, il faut arrêter de jouer à la Guémara, en ce cas-là. Ouais, des points techniques.
Au contraire.
On va retirer les étincelles.
Au contraire. Je ne redire plus le contraire. Je dis que dans la Guémara, tu étudies justement des cas qui ne sont pas pratiques. Ils ne sont pas pratiques. Par exemple, des fois, voilà, tu viens au cours de Guémara dimanche matin. On apprend à la Guémara sur Kiddushin. Des fois, on te pose un cas. On te pose un doute. On a une question qu'on te pose. On va passer 4 pages pour arriver à une conclusion à la fin. Mais Ribbono Shel Olam, mais donne-moi la conclusion directement. À qui tu me prends la tête pendant 4 pages? Pourquoi tu me prends la tête pendant 4 pages? Mais pourquoi tu me rends fou? Imagine toi, ta femme te demande quelque chose, tu lui dis voilà. On peut dire comme ça, mais on peut dire comme ça. Mais attention, on peut dire comme ça. Mais attention, on peut dire comme ça. Tu sais, 2 jours plus tard, tu dis bon, conclusion, c'est comme ça. D'accord? Dans 2 jours, on te repose la même question, tu refais le même développement.
Mais quand on te donne la conclusion. Tu as quand même pris le
d'accord.
C'est
ça la question, c'est ce que j'explique. Qu'en vérité, le but ici, c'est pas pour la conclusion. Si tu voulais les conclusions du Talmud, on aurait pu mettre les conclusions du Talmud en 10 pages. Les conclusions du Talmud. Tac, 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 tac. D'accord. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est pas du tout en contradiction. Les conclusions du Talmud, on aurait pu te les mettre en 10 pages. C'est pas le but. Notre but ici, c'est de te dire, si quand, dans le développement de la Gemara, si quand on a étudié, il y avait un rav qui a dit comme ça et un rav qui a dit comme ça, même si concrètement l'avis de ce rav a été repoussé, le fait qu'un rav a expliqué comme ça, ça veut dire que le concept peut exister comme ça dans le ciel. Et donc moi, je suis en train d'étudier comment dans la chorma de Dieu, ça peut exister. Même si concrètement, au niveau de la halakha, on n'a pas retenu son avis parce que la halakha te dira qu'il faut suivre l'avis de la majorité, pas grave. Au niveau de la halakha, je suis 1 avis sur 5. Il y avait 5 avis, je suis le 5e. Mais pourquoi j'étudie les 4 autres avis? Parce que même si sur le plan technique, je vais utiliser que l'avis de la majorité, mais dans le concept, étant donné que les 4 autres avis existaient, et que ces 4 autres concepts font partie de la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, donc j'étudie la Chorma d'Akadosh Baruch Hu. Donc, j'étudie un concept divin. Donc, bien sûr, je vais l'étudier. J'étudie tout. J'étudie pas seulement ce qui va me concerner dans la pratique. J'étudie même des cas qui ne me concerneront pas. D'ailleurs, les plus belles gmarotes, c'est en général, justement, quand on développe des cas que tu sais qu'ils n'arriveront jamais, quoi. Comme des cas, on avait appris, l'année dernière, on avait appris les cas de Elumetziot, les cas de la trouvaille. Et s'il a trouvé, et s'il y avait un signe distinctif, et qu'est-ce qu'on appelle un signe distinctif, et
qu'il y a
plein de cas qui n'arriveront jamais, des cas biscornus. Et si c'était une poule, et si la poule, on a peur que peut-être en vérité elle était chez quelqu'un et qu'elle a marché, et que quand tu l'as trouvé, c'est pas l'endroit où elle était perdue, mais peut-être elle avait un poussin qui était avec, et le poussin qu'on a trouvé à côté. Tu sais, attends, dis-moi, si tu me dis avec tes poussins, ta poule et ton œuf. D'accord? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'en vérité, on n'étudie pas une halakha. On étudie un concept. On étudie un concept. Et le concept, c'est un concept divin. Comme la Torah est infinie, le fait même que le concept peut arriver, donc moi, j'étudie un concept divin. Qu'est-ce que la Torah pense? Qu'est-ce que la Torah pense de ce concept divin? Regardez, par exemple, pour vous montrer que ça veut dire un concept divin, on avait expliqué ça une fois aussi. Quand on prend la Gemara Kiddushin, parce qu'en ce moment, le dimanche matin, on apprend la Gemara Kiddushin. Dans la Gemara Kiddushin, on te dit.
Il y a un très bon cours, excusez-moi, entre parenthèses. Hein.
Merci pour la pub. Alors,
quelle heure?
Petit encart.
9h30
jusqu'à quelle heure?
Tu ressors
à 10h30. Après, on fait la pub.
Alors, je reprends. Là-bas, la Gemara commence et dit. Elle dit. Aisha niknet bishlosha drachim. Que la femme peut être, j'ai pas envie de dire acquise, mais bon, elle peut être, on va dire, mariée, réservée, bishloshat rachim par 3 méthodes. Des kesef, bishtar ou bevia. Avec l'argent. Donc l'argent, c'est l'équivalent de la bague qu'on va donner. Bishtar, avec le contrat, comme la ketuva qu'on va faire. Ou bevia, avec les relations. D'accord? Une fois, l'admorazakan, donc ça c'est la Mishnah. Maintenant, non, ça fait longtemps qu'on a étudié.
Maintenant, cette Mishnah-là, l'Admor HaZaken, l'auteur du Tania, a raconté que quand il était jeune, il était venu chez le Magid de Meserit, son maître. Il ne connaissait pas la Chassidoute, l'Admor HaZaken. Donc il est venu. Alors lui, il était très fort en Gemara, mais il ne connaissait rien du tout de la Kabbalah. Enfin, en tout cas de la Chassidoute. Alors, il a fait un deal avec le fils du Magid de Meserit. Le fils du Magid de Meserit s'appelait Rabbi Avraham Amalach. Rabbi Avraham, l'ange. C'est quelqu'un qui était complètement détaché de la réalité. Ils ont fait un deal. Il lui a dit, moi je vais t'enseigner, l'Admor HaZaken a dit, moi je vais t'enseigner la Gemara, ça veut dire l'aspect donc dévoilé de la Torah, et toi tu vas m'enseigner la Chassidoute. Donc ils faisaient comme ça chaque jour, une heure chacun. L'Admor HaZaken a raconté que des fois, Rabbi Avraham Amalach était tellement détaché de la réalité, que, mais ils avaient une heure d'études par jour, que l'Admor HaZaken dit qu'il veut avec Rabbi Avraham Amalach, il partait, il prenait les aiguilles de la montre, il étendait un petit peu pour étudier plus qu'une heure. Et l'Admor HaZaken a raconté, il a dit, ces minutes volées entre guillemets, d'accord, m'ont été les minutes dans lesquelles j'ai le plus appris. Ça, il a raconté. Bon, alors il a raconté qu'une fois, justement, ils ont étudié la Gemara qui parlait donc du mariage. La Gemara qui parlait du mariage. Et quand ils ont étudié la Gemara qui parlait du mariage, donc l'Admor HaZaken, bien sûr, lui a expliqué le pshat avec le sens, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche la bague, comment ça marche le contrat, comment ça marche la roupa, tous les détails techniques. Après, Rabbi Avraham Amalach, il lui a dit, tu veux que je t'explique maintenant comment on étudie cette Gemara dans le ciel? Ah, bien sûr. Je t'ai expliqué. Tu sais, c'est qui la femme? La femme, c'est Israël. C'est qui le mari? Le mari, c'est Akadosh Baruch Hu. En vérité, dans le ciel, on étudie exactement la même Gemara, mais au lieu de parler d'une femme et d'un homme, on parle d'Israël et de Dieu. Et Dieu est en train de poser la question, comment je veux faire pour qu'Israël va venir vers moi? Alors, Dieu va poser la question. Alors, c'est quoi la réponse? Comment lui répondent les anges? Ils vont lui dire, il y a trois méthodes. Première méthode, c'est Kesef. C'est quoi Kesef? Kesef, en hébreu, ça veut dire l'argent. Pourquoi on appelle Kesef l'argent? Attendez, mais je vais vous expliquer. Pourquoi on appelle Kesef l'argent? Parce que Kesef, dans le mot Kesef, il y a le mot attirance, l'amour. Pourquoi on appelle Kesef l'argent? Parce que les gens sont attirés. On est attiré vers l'argent. On a l'amour de l'argent. Donc, il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, comment je vais attirer l'homme Israël? Mais Kesef, avec l'amour. Ça veut dire, d'abord, Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux Ahavat Hashem, je veux que les Juifs, ils m'aiment. Et je veux, moi, aimer les Juifs. Dieu, il dit, moi, j'aime les Juifs, et les Juifs, ils vont m'aimer. Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, on a dit, c'était par le, deuxième méthode de mariage, c'était par le contrat. C'est quoi le contrat? C'est la Torah. D'accord? Et c'est quoi Bia? Bia, c'est les relations. Quand le mari et la femme ont des relations. C'est quoi les relations? C'est les mitzvot. Que quand on fait des mitzvot, à dire Rabbi Avraham Amalach à l'Admor HaZaken, c'est comme un homme et une femme qui ont des relations, que c'est l'union la plus puissante. C'est comme si on est en train de s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Là, l'Admor HaZaken était bouche bée, il a dit bon, tu veux continuer? Après, bon, ils ont continué, il a pas raconté la suite. La suite, tu connais pas. J'aimerais bien aimer avoir ça sur toutes les Mishnayot. Pour montrer que derrière chaque détail technique que nous sommes en train d'étudier, il y a des concepts qui se cachent. L'aspect technique, on va le garder parce qu'il faut bien qu'on sache comment se comporter. Mais on n'est pas là que pour l'aspect technique. Derrière cet aspect technique se cache un concept très puissant. Plus tu montes et plus tu développes qu'en vérité les concepts vont être complètement détachés de ce que tu croyais être. Parce que la Torah, c'est une chorma ilaha. C'est la chorma suprême d'Akadosh Baruch Hu. C'est une chorma qui est ensof. Ensof, ça veut dire sans fin. Ce qu'il va dire ici maintenant. Alors maintenant, je vais prendre au basé Yuvan.
Septième ligne.
Ouvan, avec ça on va comprendre. Chiyuv, l'obligation qu'il y a. Kol naran, sur chaque neshama, le hashlim kol atariag, chaque neshama a l'obligation de compléter toutes les 613 mitzvot, de marshava, dibou ou maase, en pensée, parole et action. Ça veut dire que chacun de nous est concerné par les 613 mitzvot. Marshava, dibou, maase, en pensée, parole, action. Tu vas me dire, en pensée, je comprends, j'étudie la Torah, en parole, je comprends, je vais en parler de ces mitzvot. Mais en action, comment tu veux que je les fasse? Tu m'as dit qu'il y a 50% des mitzvot qui me concerneront même pas. C'est quoi la réponse? Encore une fois, c'est que je ne cherche pas le détail technique. Moi, ce que je cherche, c'est que le fait même d'étudier cette mitzvah, on est en train de générer cette réalité.
C'est comme si on la réalisait, en fait.
Exactement. Et c'est pour ça, dit l'Admor HaZaken, quelque chose de très puissant, ça c'est dans l'écoute de Torah. Il dit que quelque part, en galoute, en exil, on a une chance que n'avaient pas les gens à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, celui qui voulait offrir un sacrifice, il devait se déplacer, il devait aller à Jérusalem. Et à Jérusalem, il fallait le faire avec le Kohen, avec les détails, etc. Mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit, une shalma parim sefatenu. Qu'on a remplacé les veaux, sefatenu par nos lèvres, par les mots de la tfila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je fais la tfila, c'est comme si je faisais un korban. Ça veut dire qu'en vérité, aujourd'hui, on peut atteindre énormément de choses qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire. Donc là-bas, dans ce commentaire, dans l'écouté Torah, l'Admor HaZaken, il pose la question, il dit, mais comment ça marche? Comment tu peux remplacer un veau par une fila d'élèves? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas. Est-ce que c'est pas quelque part une... Vous savez, il y a des gens qui vivent dans la...
concept.
Il y a des gens qui vivent dans la... comment on appelle ça? Des gens qui ne veulent pas accepter quelque chose qui leur tombe sur la thèse. Dans la négation, comment on appelle ça? Dans la...
négation.
Dans la négation. D'accord? Des gens qui n'acceptent pas. Mais ça veut dire quoi? Le Beth Amikdash était détruit, il est en train de dire non, mais tu sais quoi, on en parle, donc c'est comme si on est en train de le faire, mais il est détruit ton Beth Amikdash.
Un déni,
exactement, Razak. Un déni. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de me dire que le Beth Amikdash était détruit, mais c'est comme si, parce qu'on est en train d'en parler. C'est quoi la réponse? C'est très simple. Il te dit parce que quand on en parle, en vérité, de quoi on parle? On parle du concept. Et en vérité, quand on avait la mitzvah physique, bien sûr qu'on avait une mitzvah physique, mais ce qui nous intéressait, c'est pas la mitzvah physique. C'est le concept qui se cache derrière cette mitzvah. Donc même si maintenant, techniquement, on ne peut plus faire la mitzvah physique parce que Dieu nous a enlevé le Beth Amikdash, mais on garde quand même le concept qui est derrière la mitzvah. Et ça, personne pourra nous l'enlever. Ça, même si tu ne peux pas faire la mitzvah physique, personne pourra t'enlever le concept qui se cache derrière la mitzvah.
Je crois qu'on fait la mida de... enfin,
oui, d'où on va trouver le concept maintenant?
Mais c'est ça le concept, c'est l'étude.
C'est pas non, l'étude.
C'est ça le concept.
L'étude.
C'est l'étude. Merci. Le concept, c'est l'étude.
Le Moussaf de Kippour.
Oui.
On raconte comment le Kohen Gadol faisait son service pour pardonner le peuple.
C'est comme si qu'on le faisait.
C'est vraiment
un sidour d'ailleurs, s'il te plaît, je te lire quelque chose. Voilà, Patah, Hayou, peu importe, voilà. Alors, parce que je sais pas si je vais retrouver la page ici. Voilà. Juste avant Hodou, le matin, Hodou, la chaîne qui rouvre chemin. On a un chapitre, d'accord, on a fini dans 5 minutes. On a un chapitre qui s'appelle Ezo Mekoman. Ezo Mekoman, c'est un chapitre du Mishnah qui raconte tous les sacrifices. Tous les sacrifices, comment ils se passaient, à quel endroit ils étaient positionnés, comment ils étaient offerts. Tous les sacrifices. D'accord? D'ailleurs, c'est le seul chapitre dans la Mishnah dans lequel il n'y a pas de marloket.
Ah bon?
Ouais, le seul. Sur les sacrifices, tout le monde était d'accord. Ah bah, il fait 26 degrés ici, comment ça? Va au Hachem. Alors, et on dit comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Regardez bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Ribon, juste avant, c'est, tout le monde le dit, tout le monde le dit ça. Juste avant le Ezo Mekoman, qu'est-ce qu'on dit?
Presque tout le monde.
D'accord? Ezo Mekoman, vous l'avez?
Oui, voilà, oui.
Juste avant le Ezo Mekoman, qu'est-ce qu'on dit? Ribon Olami, maître du monde. Atat Sivitanu Lakrit Korban Atami de Moado. Toi, tu nous as donné l'ordre d'offrir le Korban en son temps. Tu nous as donné l'ordre d'offrir tous les Korbanot qu'on va citer. Mais on n'a plus le Beth Amikdash. Alors, quand on n'a plus le Beth Amikdash, l'Achen, c'est pour ça. Yehi Ratzon Milfanecha, que Dieu fasse, donc, que toi, Dieu, tu acceptes, que, Sheyeh Siyar Siftotenu, que les paroles de nos lèvres, Chashu ou Mekoubal Lefanecha, qui soient considérées devant toi, que Ilu Ikravnu, comme si qu'on avait fait le Korban devant toi maintenant. On lit tous les matins, ça. Mais c'est du bipo, ça, c'est du déni, ça. Et ça veut dire, si tu l'as pas, tu dis, bah, tu sais quoi, je vais lire un texte en 30 secondes et c'est comme si je l'ai fait. Mais tu l'as pas fait. C'est quoi la réponse? C'est que nous, ce qui nous intéresse dans la mitzvah, bien sûr qu'on va faire la mitzvah techniquement, mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le concept qui est derrière. Et ça, personne pourra te le voler, ce concept. Même si Dieu te met en exil, même si t'es en prison, même si on t'enlève tout, personne pourra t'enlever le concept de la mitzvah. C'est pour ça que c'est écrit qu'on disait que même des gens qui étaient des fois en prison ou qui ne pouvaient pas faire une mitzvah, il y avait des fois des situations dans lesquelles les Bnei Israël n'avaient pas de filine. Il n'y a pas de tefilin. Comment ils ont fait pour mettre des tefilin? Eh ben, les rachamim leur disaient, vous pouvez pas mettre des tefilin. Réfléchissez à la mitzvah des tefilin. Réfléchissez au concept des tefilin. C'est quoi les tefilin? Soumettre le cœur, soumettre l'esprit. Réfléchissez à ça. Ça ne veut pas dire qu'on est exempté de la mitzvah. On parle des cas où vous n'avez pas le choix. Ça veut dire qu'en vérité, il ne faut pas se perdre dans le détail technique et à cause de ça, oublier le concept qui se cache derrière la mitzvah. Donc quand on a compris ça, on a compris.
Tu dois faire la bracha ou tu dois pas?
Non, la bracha tu peux pas faire. La bracha tu peux la faire seulement quand tu fais le détail technique, le maasé. Parce que l'essentiel c'est l'action. On est dans le monde de l'action.
D'accord.
Dans le monde de l'action, il faut agir dans l'action. D'accord? Mais ça change pas que c'est pas parce qu'on est dans le monde de l'action qu'on a oublié le concept qu'il y a derrière. Qu'on a oublié que derrière ces mitzvot il y a un concept.
D'accord.
On peut pas se perdre dans les détails techniques.
Dans le monde de l'action là.
Oui.
Puisqu'on devait faire, par exemple, un sacrifice.
Oui.
D'accord, on a remplacé ce sacrifice par une autre action.
Non, on n'a pas remplacé. On t'a dit, à l'époque, quand tu offrais le sacrifice, tu avais un concept qui était matérialisé par un sacrifice. Ouais. Aujourd'hui, Dieu nous a privés de matérialiser le concept. Mais le concept existe toujours, donc je peux au moins en parler. Et le fait même que j'en ai parlé, ben, ça veut dire qu'il est dans ma tête.
Non, tu n'as pas parlé, tu remplaces ce...
Non, remplacer dans le sens... que j'ai parlé du concept.
On explique la mitzvah du sacrifice.
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire en vérité, la seule chose dont Dieu m'a privé maintenant, c'est la capacité de matérialiser le concept. Et bien, quand on a compris ça, on a compris que c'est exactement la même chose pour tous les cas qui n'arriveront jamais. Tous les cas qu'on étudie dans la Gemara qui n'arriveront jamais. C'est pas grave. S'il n'arrivera pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne pourras pas le matérialiser. Mais ça change pas que c'est un concept qui existe. C'est un concept qui existe, qu'il a une option... éventuellement d'être matérialisé. Peut-être il sera matérialisé, peut-être oui, peut-être non. Ça me dérange pas. Même s'il ne sera pas matérialisé, c'est un concept divin. Le fait même que je l'étudie, c'est la chorma de Dieu. Et ça même, c'est déjà un but en soi. Si je pourrais matérialiser, tant mieux. Si je peux pas, tant pis. C'est comme le corbanot. Si je peux matérialiser ce concept en amenant un animal au Batamikdash, tant mieux. Je peux pas, tant pis. Il me reste le concept. Ça veut dire qu'en vérité, dit l'Admor HaZaken, qu'avec ça, on a compris que la Torah, c'est quelque chose de tellement puissant que personne ne pourra nous la voler, personne ne pourra nous empêcher de la faire. Même si je suis en prison, même si on m'enlève tout de ma main, personne ne pourra m'empêcher, à un moment donné, de réfléchir à un concept. Personne ne pourra m'enlever ça.
Le concept, c'est quoi? Si tu vas étudier la Mishnah?
Oui.
Qui va parler comment se dérouler?
J'étudie le concept. C'est quoi les tfilin? La soumission? Je réfléchis à la soumission d'un
cadavre. C'est-à-dire que tu vas étudier les autres sacrifices?
Oui, exactement. C'est quoi le korban khatat, par exemple? Le korban khatat, c'est quoi? Une personne qui avait fait une faute, il devait amener un korban expiatoire. C'est quoi ce korban? Korban expiatoire, ça veut dire que c'est une personne qui a fait teshuvah. Ça existe toujours. Après la teshuvah, il se sent que quand même qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il est pas chéri comme avant. Tu sais, c'est comme quand t'as blessé quelqu'un, tu t'excuses, mais tu sens que c'est pas comme avant. Alors tu lui amènes un bouquet de fleurs. On peut imaginer que le korban khatat, c'est comme le bouquet de fleurs. Comme par exemple, je veux dire à Dieu, écoute Dieu, d'habitude, j'ai l'habitude d'utiliser une heure par jour. Mais comme aujourd'hui, j'ai fait des avérotes et que je sens que c'est pas, entre nous, c'est pas comme avant. Alors, au lieu d'étudier une heure, je vais t'offrir un bouquet de fleurs aujourd'hui. Je vais étudier 1h10. C'est des concepts qui existent. À l'époque, c'était un animal. Aujourd'hui, c'est 10 minutes d'Hollywood. C'est un concept. Le concept, on fait ce que tu veux avec. Ce qui veut expliquer ici, c'est que quand on a compris qu'en vérité, derrière la Torah se cache des concepts, on comprend qu'aucun cas est irréel. Chaque cas est réel. Pourquoi il est réel? Il est réel parce que c'est un concept qui existe. Et le fait même que j'étudie ce concept, j'étudie la chorma d'Akadosh Baruch Hu, et donc je génère des énergies positives et je repousse des énergies négatives. C'est ce qu'il dit ici. Alors j'ai fini avec ça maintenant. Il dit donc shehen prati alachot ou tzrichot lavo begilgul leashlim a Torah bepardes kedel levarer kol abeurin anogot laem mikol areshpechet. Ouais, mais ça, la vérité, non, ça, je veux pas bâcler ça. Ah, il va expliquer, c'est quelque chose de très très puissant qu'il va expliquer ça la semaine prochaine. Il va expliquer comment en vérité, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'une personne, au cours de ses réincarnations, il passe par toutes les mitzvot. Ça veut dire que dans une de nos réincarnations, on était Kohen, quelque part. Alors c'est une grande question, ça. Comment on peut expliquer ça? Ouais. Attention, on va expliquer tout ça.
La concurrence.
Alors.
La concurrence arrive.
Et il va expliquer qu'en vérité, Mashiach ne pourra pas arriver, tant que chacun de nous n'est pas passé par au moins une fois par chaque mitzvah. D'accord? Mais bon, ça, on va laisser peut-être ça pour la semaine prochaine.
Ça aussi, c'est impossible.
Oui, ça, on l'avait vu, mais là, il
on
développe.
On était Cohen avant ça.
Ça aussi, c'est impossible.
C'est pas impossible. D'accord? Voilà, ça arrive là pour aujourd'hui.
C'est-à-dire que t'as déjà été Cohen? C'est-à-dire que t'as déjà été Cohen?
Oui, on a toutes les déclarations.